Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Le Goût du Moyen-Âge, le podcast des étudiants du Master Monde Médiévaux de l'Université de Poitiers. Nous sommes au CESCM, le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, et nous allons entendre Samuel Grassin et Juliette Caric, qui vont nous faire profiter de leurs sujets de mémoire respectifs. Samuel, tu es étudiant en Master 2, sous la direction de Cécile Voyer, et ton sujet s'intitule « La narration dans les images des manuscrits français 50 et français 51 ». Ton travail concerne les images de deux manuscrits réalisés au milieu du XVe siècle, et tu étudies plus précisément la manière dont l'image est organisée pour restituer une narration. Dans cette émission, tu vas nous parler d'architecture, de perspective et de bande dessinée. Tout ça à partir des images d'un miroir historial du XVe siècle. Juliette, tu es aussi étudiante en Master 2 sous la direction de Marcello Angeben et tu travailles sur les liens qui peuvent être faits entre l'iconographie du triomphe de la Vierge des XIIe et XIIIe siècles et les textes liturgiques. Ton travail se base sur un corpus d'œuvres enluminées et vitrées pour la majorité, ainsi qu'un corpus textuel assez large. Dans cette émission, tu vas nous parler de l'aspect liturgique de la Vierge via le thème de son triomphe, en t'appuyant sur l'emplacement des œuvres dans les bâtiments et sur les interprétations des textes. Samuel, je te laisse la parole.
Merci Vanessa pour cette belle introduction. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment les images racontaient des histoires au XVe siècle ? Comment est-ce que les images dans les manuscrits étaient construites pour permettre à un lecteur de suivre le fil de la narration ? C'est les questions que je me suis posées en commençant mes recherches. Mais pour mieux comprendre sur quoi je travaille, laisse-moi te parler un peu de Jacques d'Armagnac. C'est le commanditaire des deux manuscrits sur lesquels je travaille. Entre nous, on va les appeler Français 50 et Français 51, c'est leur cote à la Bibliothèque nationale de France. Il les fait copier et enluminer dans les années 1460. Jacques d'Armagnac, c'est un grand bibliophile de son temps. Il vit à une période où on lit de plus en plus, où on traduit les textes latins en langue vernaculaire et où les nobles lettrés considèrent leur bibliothèque comme un bien de prestige. Il rassemble donc autour de lui des scribes, des enlumineurs et se constitue une bibliothèque qui compte un peu plus d'une centaine d'ouvrages. Pour comprendre de quoi on parle, on remonte le temps. Au XIIIe siècle, Vincent de Beauvais, un moine dominicain, est chargé de produire une sorte de manuel scolaire pour les clercs. En fait, à ce moment-là, la mémoire écrite est en train de supplanter la transmission orale et on commence à composer des encyclopédies qui regroupent toutes les connaissances sur un thème donné. C'est dans ce cadre que Vincent de Beauvais compose le Speculum Maius, le miroir du monde. L'objectif, c'est de rassembler toutes les connaissances qui peuvent être utiles aux clercs, en ce qui concerne les histoires naturelles, les sciences mathématiques, la politique et l'histoire. C'est la partie sur l'histoire qui connaît le plus de succès sous le titre du Speculum Historiale, donc le miroir de l'histoire. Je te passe les détails, mais au XIVe siècle, cette somme historique est traduite en français sous le titre de Miroir historial, et c'est donc ce texte que Jacques d'Armagnac demande à ses scribes et à ses enlumineurs. Il le fait copier en 3 tomes, et le scribe laisse dans le 3e volume une inscription qui nous permet de savoir que la copie s'est achevée en 1463. C'est la seule date sûre et certaine au sujet de ces manuscrits. Il les fait aussi enluminer, 506 miniatures réparties sur les 3 volumes, rien que ça. Et pour mon mémoire, j'ai choisi de ne traiter que les 2 premiers volumes, ce qui ramène le corpus à 393 images. Je me suis dit que c'était déjà bien. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces miniatures et j'ai donc choisi de resserrer mon sujet sur la question de la narration. Ce qu'il faut retenir, c'est que le texte de ce manuscrit, c'est une succession de paragraphes assez courts qui racontent différents événements considérés comme historiques. Donc des passages bibliques, des guerres, des batailles, des vies de saints et de martyrs, etc. Certaines de ces histoires sont illustrées et celle qui m'intéresse particulièrement, c'est celle qui montre plusieurs épisodes d'une même histoire dans une seule image. C'est assez difficile de raconter une histoire avec juste une image. Ça ne bouge pas, il faut trouver des manières de montrer le passage du temps et l'ordre selon lequel il faut lire les épisodes pour faire comprendre les actions et les intentions des personnages. Pour ça, il faut jouer sur leurs attitudes, leurs gestes et la position de leur corps. Toutes ces stratégies de mise en scène, ça donne des images qui sont très pleines. On a plusieurs fois le même personnage pour montrer qu'on regarde différents épisodes avec parfois son nom écrit dans l'image pour que ce soit plus clair. Pour séparer les différents épisodes, les images de ces manuscrits, elles utilisent souvent les architectures. Beaucoup de ces enluminures sont construites comme un imbriquement de plusieurs sortes de petites maisons dont on enlève un mur pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la convention de la maison ouverte et c'est très courant dans les images médiévales. Ce qui change dans ces manuscrits, c'est qu'il y a plusieurs maisons dans la même image. Parfois, elles ont des tailles différentes. Parfois, l'observateur se trouve à l'intérieur de cette maison et il en voit une autre par l'ouverture. Parfois, on a une succession d'architectures qui se télescopent dans le sens de la profondeur. Et c'est pour ça que ça peut faire penser à de la bande dessinée. L'enluminure, elle est construite comme une succession de petites cases qui montrent chacune une étape d'une narration. On a même l'équivalent médiéval des bulles. Parfois, on voit une sorte de bandeau qui flotte dans l'image avec une phrase qui donne les paroles prononcées par un personnage. Mais même si ça fait penser à de la bande dessinée, la comparaison est un peu excessive, surtout parce que dans une BD, les cases sont des images différentes, alors que dans Maison Lumineur, tout existe dans la même image. Une autre différence avec la BD, c'est que ce sont des images qui sont assez compliquées à comprendre si on ne sait pas déjà ce qui est représenté. Je pense que ce sont des images qui comptent beaucoup sur la culture générale du lecteur, et qu'elles n'ont pas vocation à être prises séparément du texte. Ces enluminures, elles sont conçues pour accompagner le texte. Elles mettent en avant certains passages qui ne sont pas forcément ceux qui prennent le plus de place dans le texte. Et à l'inverse, elles passent sous silence beaucoup d'épisodes du texte. Donc il ne s'agit pas d'un doublon, même si c'est la même histoire, les images et le texte proposent deux regards différents. Je dirais même que les images qui sont réalisées deux siècles après la composition du texte en sont une forme de relecture. À mon avis, elles ajoutent une dimension épique ou émotionnelle au texte. On a beaucoup de scènes de bataille, de supplices de martyrs, d'histoires avec des rebondissements, mises en scène d'une manière qui provoque des émotions chez le lecteur. Et donc, un des résultats de mes recherches pour l'instant, c'est que ces images, elles sont le fruit d'une collaboration étroite entre les enlumineurs et le lecteur. D'un côté, donc, le commanditaire demande beaucoup d'images très chargées pour illustrer son manuscrit, dont il connaît déjà probablement le texte, et l'enlumineur s'appuie sur cette connaissance du texte, ce qui lui permet d'innover dans la création des images, puisqu'il peut compter sur son lecteur.
Vous êtes toujours sur Radio Pulsar. Donc Samuel, tu nous as présenté ton sujet, c'était passionnant, et ça me donne envie de te poser plusieurs questions. Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a donné envie de traiter un tel sujet ?
Eh bien, c'est ma directrice qui m'a proposé de travailler sur ces manuscrits quand je suis entré en master, et j'ai accepté parce qu'ils m'ont beaucoup plu. Ça a été un peu difficile de trouver un angle sous lequel traiter ces images, mais ça a été assez évident pour moi que la dimension narrative était assez importante, surtout à cause de cette imbrication des architectures dont je parlais tout à l'heure. Et en plus de ça, moi je dessine aussi et je fais un peu de bande dessinée, donc en fait ça m'a assez vite sauté aux yeux, ces questions de structuration de l'image.
C'est super ça, Samuel. J'avais une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres manuscrits médiévaux qui ont ce genre d'image avec plusieurs scènes, des petites maisons et tout ça ?
Oui, bien sûr. Ils ne sont pas uniques de ce point de vue-là. En fait, au XVe siècle, il y a beaucoup d'enlumineurs qui utilisent ce genre de technique de mise en scène, de placer plusieurs épisodes dans des architectures. Ça vient notamment d'une nouvelle conception de l'image. On se soucie de plus en plus de placer l'action dans un cadre tridimensionnel et de donner une profondeur à l'image, et donc on peut caler différents épisodes dans différents plans. Par contre, dans mes manuscrits, c'est particulièrement récurrent, et surtout, les architectures, elles sont représentées en entier. Chez des enlumineurs comme Jean Fouquet, par exemple, on a des éléments architecturaux qui séparent plusieurs parties de l'image, mais en fait, c'est surtout des grands traits verticaux qui distinguent un intérieur et un extérieur. Alors que dans les Français 50 et 51, on voit souvent l'architecture en entier, avec le toit, parfois avec un escalier qui fait la transition entre l'intérieur et l'extérieur, des architectures de trois quarts, etc. Et surtout, elles sont imbriquées les unes dans les autres selon une certaine logique. Et c'est ça qui est assez spécial, la présence d'artifices de narration très explicites et en même temps cette recherche d'une cohérence interne de l'image.
Et selon toi, quel serait l'intérêt de faire des images aussi complexes ?
Mais il me semble aussi que ce sont des images qui sont compliquées dans leur structure, mais que pour un noble instruit du XVe siècle, elles étaient en fait assez faciles à comprendre. Après mes recherches, je pense que ces images, elles ont été faites en partie pour le plaisir de se sentir intelligent devant des images compliquées. C'est-à-dire que l'image semble inaccessible, mais elle met en place plein de petits indices qui permettent au lecteur de s'y retrouver et de comprendre quelle histoire est racontée. Le lecteur, il a déjà une culture générale. Par exemple, il sait comment est représenté tel ou tel personnage d'habitude, donc il le reconnaît, il se souvient au moins un peu de l'histoire et l'image est aussi là pour lui rafraîchir la mémoire. Et puis quand il veut retrouver un texte, il feuillette son manuscrit et l'image permet de retrouver plus vite et plus facilement l'histoire qui l'intéresse.
Pour terminer, est-ce que tu aurais une dernière anecdote à nous faire partager ?
Oui, tout à fait. Certaines de ces enluminures, elles présentent une composante humoristique et j'ai par exemple trouvé une image de démon qui pète au folio 338V du français 51.
Encore merci Samuel pour ce petit détail. Vous écoutez Le Goût du Moyen-Âge et nous allons tout de suite entendre Juliette qui va nous parler du thème iconographique du triomphe de la Vierge.
Merci Vanessa. Comme tu l'as dit tout à l'heure, mon travail s'appuie sur un corpus d'œuvres et de textes qui concernent le triomphe de la Vierge. Bien que mon sujet m'ait causé pas mal de fil à retordre cette année, j'y reste quand même très attachée car je l'ai trouvé très intéressant et il a énormément enrichi mes connaissances. Le triomphe de la Vierge, c'est un thème qui n'existe pas dans les textes liturgiques et qui est donc plutôt compliqué à appréhender dans l'iconographie. Il y a beaucoup d'hypothèses sur la formation de la tradition iconographique. Celle qui semble la plus plausible, c'est que tout d'abord, l'iconographie dériverait des œuvres impériales byzantines. Sur certaines peintures murales qui représentent la Vierge, qu'on retrouve notamment en Italie, elle porte des vêtements somptueux et beaucoup de bijoux. Si tu as les mosaïques de Ravenne en tête, ça ressemble beaucoup à l'impératrice Théodora. On pense que les images ont ensuite circulé vers l'Europe sur les pièces de monnaie. Ça, c'est pour la dimension royale du triomphe. Pour l'attitude du Christ et de la Vierge dans les images, l'inspiration viendrait plutôt des textes, et plus précisément de leur interprétation mariologique. Les deux plus connus pour la question sont le Cantique des Cantiques, qui est un poème, et le Psaume 44, qui, sans lire entre les lignes et sans m'attarder sur les détails, sont des textes qui chantent l'union royale de deux époux. Au cours du Moyen-Âge, les théologiens et les pères de l'Église ont de plus en plus associé les époux au Christ et à la Vierge, et c'est ça qu'on appelle l'interprétation mariologique. Dans les textes, les informations sont données plus directement, et ça facilite la création des images. Les deux époux sont assis côte à côte sur un même trône, et le cantique précise même que l'épouse est assise à la droite de l'époux. Et être assis ou assise à la droite de Dieu, c'est un privilège qui est réservé à extrêmement peu de personnes. Après, il y a souvent des thèmes associés, par exemple des anges qui peuvent encenser, éclairer ou jouer de la musique autour du Christ et de la Vierge. Ils sont mentionnés dans les deux textes que j'ai cités, donc le Cantique des Cantiques et le Psaume 44, et aussi dans les prières. Et de manière générale, ils sont là pour renforcer la dimension triomphale de la scène. Assez souvent aussi, il y a l'arbre de Jessé qui est associé au triomphe. C'est pour rappeler la lignée royale de laquelle descendent la Vierge et le Christ. Et ça permet entre autres de justifier le fait qu'il soit couronné. Pour la dimension liturgique, je me suis concentrée sur des chants et des prières utilisés pendant la messe. Dans les Bibles notamment, il y a des enluminures qui représentent le triomphe de la Vierge. Parfois, elles peuvent occuper une page entière, parfois elles constituent simplement le décor d'une initiale ornée. Et puis il y a aussi les textes du Cantique des Cantiques ou du Psaume 44 qui, du coup, contiennent des enluminures qui représentent les époux, qu'on peut identifier au Christ et à la Vierge couronnée. Pour les vitraux, qui constituent une part importante de mon corpus, les programmes iconographiques sont les plus intéressants quand les cathédrales sont dédiées à la Vierge, car elle est représentée presque partout. Pour l'aspect liturgique, les vitraux qui m'intéressent le plus sont ceux qui sont dans le chœur. C'est encore mieux s'il s'agit d'un vitrail axial, parce qu'à cet emplacement, il est directement en lien avec ce qui se passe autour de l'autel pendant la messe. Dans ce cas-ci, c'est plutôt une Vierge à l'enfant couronnée qui est représentée. Elle est entourée d'anges qui l'encensent, et je pense que c'est pour faire écho à tous les moments d'encensement qui ont lieu pendant la messe. Et le format permet aussi de représenter la Vierge dans des dimensions monumentales. Donc, sur un vitrail comme ça, le triomphe de la Vierge est véritablement mis en valeur. Sinon, le triomphe de la Vierge peut aussi occuper une scène sur une lancette ou une rose. J'ai aussi élargi mon corpus à trois œuvres extérieures à la France pour étudier les premiers essais de la formation d'une tradition iconographique. Quand je proposais de comparer avec Ravenne tout à l'heure, on retrouve un peu la même idée à Rome. À Sainte-Marie du Trastevere, il y a la mosaïque de l'abside qui rappelle vraiment le style byzantin. Les deux autres œuvres sont anglaises. Il y a un chapiteau très abîmé qui provient d'un cloître sur lequel on voit encore deux figures assises côte à côte. On voit aussi la même chose sur le portail de l'église de Kennington. Dans ses premiers essais plutôt pas mal mais encore assez hésitants, on arrive à la cathédrale Notre-Dame de Senlis vers 1175. Le triomphe de la Vierge du tympan du portail ouest de la façade principale est considéré comme étant le plus complet. On considère que c'est cette œuvre qui constitue la forme définitive de l'iconographie sculptée du triomphe.
Merci pour cette présentation de ton sujet, Juliette. C'était très intéressant et ça me pousse du coup à te poser plusieurs questions. Et pour commencer, comme j'ai demandé à Samuel tout à l'heure, comment est-ce que tu as choisi ton sujet ?
Alors, c'est mon directeur de recherche qui m'en a proposé une trame en fin de troisième année de licence. J'ai commencé mes recherches pendant l'été et après, on a précisé le sujet au tout début du master. Ça m'a beaucoup plu parce que je voulais travailler sur une figure féminine du Moyen-Âge et je trouve que mettre en relation la Vierge couronnée avec les textes liturgiques, c'était un axe de recherche intéressant et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses au cours de ces deux dernières années.
Tu dis que tu as rencontré des difficultés pendant ton travail. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus ?
Alors, les sources historiographiques sont assez anciennes pour la plupart. Il y a notamment des choses qui ont été dites au 19e ou au 20e siècle qui ne sont pas ou trop peu remises en question aujourd'hui. Donc parfois, c'est difficile de s'avancer quand personne ne peut trancher. Parfois aussi, les seules traductions de gros textes latins en français ne sont pas fiables et mon niveau en latin ne me permet pas de refaire une traduction moi-même. Et en plus, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais ma plus grosse difficulté, ça a été de retravailler mon sujet pendant l'année Master 2. Mon sujet d'origine était très vaste et en Master 1, je me suis concentrée sur le triomphe de la Vierge, puis en Master 2, je devais travailler sur l'arbre de Jessé. Et en fait, en Master 2, il y avait trop de choses à revoir sur mon mémoire de Master 1, donc je me suis rendu compte un peu tard dans l'année qu'il fallait réduire le sujet. J'avais passé un semestre à avancer pour finalement abandonner les recherches que j'avais faites jusque-là. J'ai dû revoir beaucoup de choses entre janvier et juin et c'était très speed.
D'accord, donc tu as dû abandonner le thème de l'arbre de Jessé, mais tu nous en as parlé très rapidement. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots de plus sur ce thème ?
Oui, c'est un thème qui est très souvent associé au triomphe de la Vierge, notamment sur les portails sculptés, où il se trouve sur les voussures. Donc Jessé, c'est le patriarche, tous ses fils sont des rois, ils sont humains, donc la Vierge termine leur succession parce qu'elle est humaine elle aussi. Et tout en haut de l'arbre, il y a le Christ, c'est parce qu'il est roi, fils de roi, qu'il est tout en haut de l'arbre. Et donc l'arbre de Jessé, c'est un thème qui permet d'insister sur la royauté et la divinité du Christ et de la Vierge en les plaçant au sommet de la généalogie. Et c'est pour ça qu'il est souvent associé au triomphe de la Vierge.
Et pour finir, j'aurais une dernière petite question. Est-ce que tu as une œuvre préférée dans ton corpus à nous citer ?
Alors, tout support iconographique confondu, j'ai beaucoup aimé l'enluminure du folio 1 verso du manuscrit 23 de la Bibliothèque centrale Louis-Aragon d'Amiens, qui représente un couronnement de la Vierge. Et c'est l'œuvre de mon corpus qui contient le plus de détails, et c'est ce qui m'a plu tout particulièrement dans cette œuvre. Donc, il y a la scène principale du couronnement, à laquelle sont associés les symboles des quatre évangélistes, ainsi que les évangélistes humains et les personnifications de l'Église et de la synagogue. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y avait plein d'éléments à analyser sur un seul registre.
Merci beaucoup, Juliette. Chères auditrices, chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. C'était Le Goût du Moyen-Âge, le podcast des étudiants du Master Monde Médiévaux de l'Université de Poitiers. Vous venez d'écouter Samuel Grassin et Juliette Caric, qui nous ont parlé de leur sujet de recherche en histoire de l'art médiéval. Nous nous retrouverons l'année prochaine avec de prochains sujets passionnants à découvrir.